Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 65. Réseau Sheldon Bush Grossman. Les meurtres du comté d'Oakland, révélateurs de la toile d'araignée pédocriminelle. Nous allons aujourd'hui parler d'une affaire ancienne qui montre la manière dont les crimes d'un réseau de pédos impliquant des privilégiés du coin peut être étouffé. Mais aussi la collaboration de différents réseaux pédocriminels pour trouver des enfants, produire des vidéos de viols et même de torture. L'affaire des meurtres du comté d'Oakland, qui concerne quatre meurtres d'enfants, remonte à la fin des années 70 et montre comment ces réseaux s'entrecroisent et s'organisent. Si on tire les fils de cette affaire, on retombe sur une bonne partie du bestiaire pédocriminel des années 80 à 2000 en Europe également. L'affaire remonte aux années 76-77, quand quatre meurtres d'enfants se succèdent, avec des éléments similaires dans le modus operandi. Mark Stebbins, Jill Robinson, Christine Mihelic et Timothy King ont tous été retenus et torturés en captivité avant d'être tués et leurs corps déposés dans la nature alors qu'il neigeait. Ces crimes sont appelés les Snow Murders aux États-Unis. Quatre meurtres d'enfants non résolus en quelques mois. Les faits se sont produits dans le comté d'Oakland, donc dans la banlieue près du lac Michigan, dans la banlieue de la ville de Détroit, un des comtés les plus riches du pays à cette époque où vivaient une partie des privilégiés de la région de Détroit. D'autres meurtres d'adolescentes ont eu lieu juste avant et pendant les quatre meurtres. La plupart des victimes sont issues des classes populaires. Cynthia Cadieux, 16 ans, enlevée et tuée le 15 janvier 1976 sur un court trajet près de son domicile. Son corps a été retrouvé quelques heures plus tard. Un dénommé Robert Anglin sera condamné en 79 pour ce meurtre. Sheila Strock, 14 ans, violée et tuée par un cambrioleur alors qu'elle faisait du babysitting. En 78, un type, Oliver Rhode Andrews, a été condamné à la prison à vie pour le meurtre. Donc Mark Stebbins, 12 ans, enlevé sur le chemin de son domicile à Fernandale le 15 février 1976. Les parents ont très vite pensé à un enlèvement. Son corps a été retrouvé sur un parking le 19 février. L'autopsie a conclu à une mort par asphyxie. Ses poignets et ses jambes avaient des traces de liens. Il a été violé, mais aucune trace de sperme n'a été retrouvée. Jane Louise Allan, 14 ans, enlevée lorsqu'elle faisait du stop depuis son domicile de Royal Oak le 7 août 1976, et son corps a été retrouvé 4 jours plus tard dans la Great Miami Rivers dans l'Ohio. Jill Robinson, 12 ans, a disparu le 22 décembre 1976 alors qu'elle était sortie de son domicile de Royal Oak où elle vivait avec sa mère et ses deux petites sœurs. Son corps a été retrouvé le matin du 26 décembre à quelques kilomètres de Royal Oak. Elle a été tuée d'une balle dans la tête. Son corps semblait particulièrement propre et aucune trace de violence sexuelle n'a été retrouvée. Christine Mihelic, 10 ans, a disparu le 2 janvier 1977 alors qu'elle avait eu l'autorisation de sa mère pour acheter un magazine à la supérette du quartier vers 18h30. L'affaire a été largement couverte dans les médias, son corps n'a été retrouvé que 19 jours plus tard, la mort étant probablement due à une asphyxie. Le légiste a dit qu'il n'a trouvé aucune marque de viol, mais qu'une équipe de techniciens de laboratoire a retrouvé du sperme. Sa mère pense que Christine a été rhabillée après sa mort, je cite, Chris n'aurait jamais rentré son pantalon dans ses bottes, ni n'aurait noué son chemisier devant, a-t-elle affirmé. Fin de citation. Timothy King, 11 ans, a disparu le 16 mars 1976 après être parti en skate de chez lui. La police a déployé les grands moyens pour retrouver ce fils d'avocat, arrêté plus de 2000 véhicules, fouillé le secteur et répondu à des dizaines de témoins. Son corps a été retrouvé dans un coin perdu 6 jours plus tard. L'autopsie a permis d'identifier des traces de violence sexuelle et de constater que le corps avait été lavé minutieusement. La police a considéré que les quatre enfants avaient été retenus à l'intérieur pendant leur captivité, qui a duré entre 4 et 19 jours, et que les cas des trois adolescentes devaient être séparés. Les corps des enfants ont tous été déposés au bord de route, où ils ne pouvaient qu'être trouvés rapidement. Malgré la mobilisation d'une douzaine d'inspecteurs de police, après le meurtre de Christine Mihelic, l'enquête sur ces meurtres n'a mené nulle part. Le profil du tueur était celui d'un homme blanc de 25 à 30 ans, habitant dans le coin, éduqué, maniaque de la propreté, ayant une importante liberté de mouvement, qui avait des troubles sexuels et était probablement sous traitement psychiatrique. Plus de 4000 signalements ont suivi la diffusion de ce profil. La police avait aussi des portraits robots d'un homme vu en train de parler avec Tim King juste avant sa disparition. Mais sur le fond, les familles ont dit dès le début 77 que l'enquête piétinait. Des campagnes d'information étaient menées à destination de la population pour mettre en garde les enfants contre les agresseurs. Des émissions de télé tournées en boucle sur ces meurtres, l'ambiance était des plus pesantes. Il y a même eu une mobilisation pour soutenir la task force mise en place pour l'enquête. Des milliers d'appels ont été traités par la task force, 5000 témoins ont été entendus, mais quand elle a été supprimée en décembre 78, l'enquête n'avait pas avancé, mais les meurtres avaient cessé. Parce que l'auteur était certainement dans un hôpital psychiatrique, selon la police. La journaliste Marnie Rich Keenan a écrit le livre The Snow Killings, Inside the Oakland County Child Killer. Donc, les meurtres de la neige à l'intérieur du, on va dire, du cas du tueur d'enfants du comté d'Oakland, donc dans la banlieue de Détroit. Paru en 2020, suite à son enquête menée avec l'aide du sergent Corey Williams, qui travaille sur cette affaire depuis le début des années 2000. Elle explique que la fin des années 70 a été marquée par l'industrialisation de la pédopornographie, par des magazines et des vidéos, notamment en provenance d'Europe, et de l'exploitation sexuelle d'enfants aux États-Unis et dans la région de Détroit, qui ont prospéré d'autant plus facilement qu'elles n'étaient pas considérées comme des crimes, mais plutôt comme des délits mineurs. C'était d'ailleurs aussi le cas en Europe à l'époque, France comprise, jusque dans les années 90, quand plusieurs scandales ont amené les parlementaires à renforcer les peines. L'inspecteur Corey Williams, qui a enquêté dans les années 2000 et 2010 sur cette affaire et sur les réseaux d'exploitation de mineurs présents autour de Détroit dans les années 70, a interrogé un pédocriminel qui a dessiné un organigramme assez fourni des différents groupes. On y trouvait des camps de nudisme pour enfants, l'église de la Nouvelle Révélation, la René Guyon Society, des maisons d'édition, des associations caritatives tournées vers les jeunes, surtout les garçons. Il y avait parmi les clients de ces réseaux, d'après les témoignages récoltés par Williams, des politiciens locaux, des syndicalistes, des dirigeants d'entreprises automobiles. Entre parenthèses, Détroit était l'un des plus gros sites automobiles du pays. Et d'autres, comme un ancien pasteur ou un enseignant. Williams a aussi interrogé beaucoup de victimes, alors devenues adultes. Des hommes, souvent issus de familles pauvres et déstructurées, à qui les pédocriminels donnaient 10 dollars pour une fellation, 20 dollars pour une photo nue, 50 dollars pour un film, et qui sont souvent restés fracassés. Mais l'enquête a été malmenée, notamment parce que le FBI et d'autres agences fédérales s'en sont mêlées et ont omis de mentionner un certain nombre d'informations à la police locale, comme l'existence de preuves scientifiques. Lol. Les familles, elles non plus, n'ont pas été informées de l'enquête, et encore moins des différents suspects. Williams a notamment travaillé avec un pédocriminel nommé Richard Lawson, actif dans la région à l'époque des meurtres. Il conduisait un camion qui livrait des journaux et passait par l'église méthodiste du coin pour trouver des victimes. Et la femme qui vivait alors avec lui a dit à Williams être certaine que Lawson avait tué des enfants. Par ailleurs, Lawson était un informateur de la Detroit Sexual Crime Unit depuis les années 70 sur les réseaux pédocriminels dans plusieurs États. Donc vous voyez, lui, il faisait des trucs, mais en même temps, c'était un indice pour se couvrir, et vous verrez par la suite, c'est une bonne stratégie, puisqu'il a réussi à s'en sortir grâce à ça. Avec les lois américaines, quand on donne, on peut être innocent, enfin, on peut être gracié. Je reprends. À son procès pour meurtre en 2006, il a dit qu'il y avait deux tueurs pédocriminels qui utilisaient un garçon pour attirer leurs victimes dans leur voiture, mais a toujours refusé de passer au détecteur de mensonges. En 88, lors d'une audition devant la police en présence de Barry King, le père de Timothy, Lawson a déclaré qu'il connaissait quatre individus impliqués dans les meurtres d'Oakland County, dont un promoteur immobilier dénommé Sheldon, qui finançait la réalisation de films pédopornographiques, ces mises en scène de viols d'enfants réels. Il l'a répété en 2005 à Corey Williams. Le dit Sheldon aurait commandé un garçon avec une description précise à laquelle Timothy correspondait, et s'est enfui après avoir été libéré sur une caution de 1 million de dollars, a précisé Lawson. Je cite: Il a désigné les trois autres tueurs d'enfants qu'il a fréquentés, écrit Marnie Rich Keenan. Le numéro 1 était un joueur qui fréquentait les parties de poker tardives dans le quartier de Highland Park. Il prenait également de la cocaïne, ne faisait rien d'autre que de fournir des enfants à d'autres pédophiles. Le numéro 2 s'appelait Bob. Il faisait des films dans une maison d'appartement bien connue dans le quartier sous le nom de The Mansion. Son matériel de production était entièrement financé par Sheldon. Le troisième était un pédophile qui travaillait chez Ford Motor Company et avait quitté l'État des années auparavant. Mais en 88, personne n'a jugé utile d'enquêter à ce sujet. D'ailleurs, explique Keenan, Lawson a demandé l'immunité en échange de ces informations et son affaire de viol sexuel sur mineur a bien été enterrée. Lawson est mort en 2012 en prison. Il y avait Bob Moore, mort à Détroit en 1996. Williams a découvert qu'il était un pilier de la prostitution de mineurs à l'époque des meurtres et que son magasin de vélos à Détroit avait un sous-sol qui était un lieu de tournage de films pédocriminels. Dans son livre, Barry King dit que selon Lawson, Moore avait l'habitude de prendre de jeunes garçons pour aller rendre visite à Herbert Lee Bush, le père de Christopher Bush. On va y revenir. Il y avait aussi un certain Theodore Lamborghini qui vivait près de Détroit jusqu'à son départ en 1978, quand les meurtres ont cessé. Arrêté en 2005 pour être entendu, il a confirmé sa fréquentation du milieu des pédos de Détroit dans les années 70, mais a nié les meurtres. Sur une des photos de Bob Moore, il a reconnu Timothy King qui était nu. Lamborghini a accepté de passer au détecteur de mensonges et a complètement raté le test. Il a dû être relâché et Williams en a profité pour l'observer de près avec le FBI pendant que des journalistes commençaient à lui tourner autour également. Pendant ce temps, Williams a récolté les témoignages de 16 victimes de Lamborghini, des hommes qu'il a violemment agressés enfants, mais ce sont des collègues ignorant presque tout du dossier qui l'ont interrogé. Donc, il n'a donc rien avoué au sujet des meurtres. Après cela, Lamborghini a été condamné pour 11 charges de violence sexuelle contre des enfants, avec 10 à 15 ans de prison à chaque fois. Plus récemment, Lamborghini a été relié à l'enlèvement et au meurtre en 89 dans l'Ohio d'une fillette par deux pédos qu'il connaissait. Apparemment, ils étaient tous dans le même réseau créé autour de Bob Moore, qui agressait des enfants de quartier pauvre. Et quand la police a commencé à enquêter sur les meurtres d'Oakland County, beaucoup ont quitté la région. Lamborghini a probablement reconstitué un réseau du côté de Cleveland, où il était parti s'installer. Quoi qu'il en soit, il n'a jamais avoué les meurtres. D'autres pédocriminels du coin ont été étudiés, comme Kent Schultz, bénévole auprès des jeunes dans une église méthodiste qui a été arrêté en octobre 1977. D'après l'enquête, il était proche du sénateur du Michigan en place pendant les meurtres, Jack Faxon, et était en relation avec Francis Sheldon, un riche pédocriminel du coin. Schultz a été relâché après avoir réussi le test du détecteur de mensonges. Ont aussi été étudiés les cas de Archibald Edward Sloan Jr., né en 1941 dans une famille pauvre avec un père alcoolique qui a déménagé à Détroit quand il avait 13 ans et à 17 ans il a été arrêté une première fois pour avoir violé un garçon de 10 ans. D'autres arrestations et peines de prison pour des faits similaires ont suivi. Il est arrivé à Oakland County en 1973, où il a continué avec une condamnation à quelques mois de prison en 1978 pour avoir agressé deux gamins de 12 et 14 ans. En 1983, il a fini par recevoir une peine de prison à vie pour un énième viol d'enfant. Il était dans le secteur de l'enlèvement de Mark Stebbins et surtout des cheveux retrouvés en 2010 sur Mark Stebbins et sur les sous-vêtements de Timothy King étaient semblables à un cheveu retrouvé dans la voiture de Sloan. John Crosby, qui était la dernière personne connue à avoir parlé avec Mark Stebbins, il a été soupçonné dès que le corps de l'enfant a été retrouvé et a été interrogé sans être accusé. Il a été arrêté en septembre 1976 pour l'agression d'une fille de 13 ans. Il y avait aussi Ronald Lloyd Bailey, un pédoviolent depuis son adolescence qui a tué plusieurs de ses victimes, et également son médecin, le docteur José Tombo, qui travaillait à l'hôpital psychiatrique régional de Norville, qui se trouve dans le secteur des meurtres. Le docteur Tombo était connu pour droguer et agresser ses patients. Il pouvait les enfermer plusieurs jours d'affilée et les droguer jusqu'à ce qu'ils perdent la mémoire, des pratiques qu'on retrouve dans certains programmes MKUltra. Marnie Rechkinan, la journaliste, explique donc que, je cite, Bailey a obtenu des privilèges spéciaux, des laissez-passer pour aller venir à de l'hôpital en échange de faveurs sexuelles dans le bureau de Tombeau. Bailey a déclaré que lui et Tombeau passaient des week-ends entiers à faire la fête ensemble, patients meurtriers et psy démoniaques. Bailey est sorti en 1980 et s'est installé en Floride. Quant à Tombeau, il a été obligé de fuir le pays après des accusations contre lui. Des suspects, morts ou silencieux. À nouveau, l'enquête s'est retrouvée au point mort, jusqu'à ce que les parents de Timothy King apprennent qu'un coupable avait avoué, un certain Larry Vassar, qui avait son entreprise spécialisée dans les tests au détecteur de mensonges, a échangé un jour de 2006 avec un confrère, et ils ont abordé l'affaire car cet autre collègue était un voisin de Timothy King et avait fait carrière dans les tests au polygraphe à cause de ce meurtre. Vassar a dit qu'il avait passé le tueur au polygraphe et que celui-ci était décédé. Il a fini par être interrogé par une équipe du FBI et a été obligé de donner le nom du tueur. Il s'agissait de Christopher Bush, né en 51 et officiellement suicidé en 78 à 27 ans. Il a aussi mentionné son complice, Gregory Green, mort d'une crise cardiaque en prison en 95 à 45 ans. On a découvert qu'après cela, Bush, qui avait 26 ans à l'époque des crimes et était aussi le fils du directeur financier de General Motors, a été entendu par un autre polygraphe blanchi et relâché. Ses avocats, le couple Burgess, qui n'étaient pas présents lors du deuxième test, sont aussi morts assez rapidement après. Vassar travaillait pour le couple Burgess pour réaliser des tests au polygraphe dans le cadre de procédures judiciaires. Le domicile de la famille Bush se trouvait à Bloomfield Hills, une banlieue cossue à moins de 10 km des quatre enfants tués. Entre janvier et juillet 1976, Bush a été poursuivi pour quatre agressions de deux mineurs de 13 et 14 ans dans le comté d'Oakland et autour, dont l'un qu'il était censé chaperonner dans le cadre du programme Big Brother. Il a fini par arrêter en janvier 1977 avec Green et en mars 1977, son père a décidé de changer ses avocats et lui a assigné le couple Burgess, en particulier Jane Burgess, qui a réussi à, écoutez bien, à le faire libérer quatre fois de suite avec des cautions insignifiantes au regard des moyens de sa famille. L'un des mineurs en question, violé à de multiples reprises, est presque étranglé à mort par Bush et Green pendant l'été 76, a raconté que Green avait affirmé que Bush avait déjà tué un autre garçon dans les bois près de chez lui et que Bush l'envoyait dans une aire de jeu pour jeunes afin de lui ramener d'autres victimes. Il a expliqué que Bush l'avait obligé à pratiquer du sexe oral avec un autre garçon qu'il a identifié ensuite comme étant Timothy King. Ce témoin a aussi dit qu'il a été amené par Bush et Green dans une maison où Lamborghini est arrivé peu après. L'autre, James Gunnell, qui avait 16 ans, a dit qu'à l'époque, la mère de Bush est venue le trouver dans sa limousine noire pour lui proposer de l'argent en échange de sa rétractation et qu'ensuite, sa famille a reçu des coups de fil anonymes. Plus tard, un de ses cheveux a été retrouvé sur les vêtements de Christine Mihelic. Détenu pour divers crimes dans les années 2000-2010, il a échoué au détecteur de mensonges mais n'a jamais voulu s'expliquer, craignant certainement de prendre une peine plus lourde. Marnie Rich Keenan écrit que Jane Burgess a, je cite, négocié avec succès la réduction ou l'abandon de toutes les charges retenues contre Chris Bush et convaincu quatre juges distincts que la mise à l'épreuve et le traitement psychiatrique permettaient de freiner le comportement intelligent, préoccupé et consciencieux de Chris Bush. Fin de citation. Alors c'est quand même extraordinaire parce que habituellement quand on est qualifié de intelligent, préoccupé et consciencieux, bah, c'est pas le signe de la folie ça. Il y a peu de chances qu'on soit dirigé vers l'hôpital psychiatrique, on va plutôt dire qu'on est complètement responsable de ses actes, etc. Il a même passé avec succès le test au détecteur de mensonges et n'a été poursuivi pour aucun des meurtres du comté d'Oakland. Mieux, alors qu'il a plaidé coupable pour quatre agressions de mineurs, il n'a même pas fait un seul jour de prison physiquement. Par ailleurs, Bush a décrit trois endroits où il avait enlevé des enfants, qui correspondent au lieu des disparitions de Mark Stebbins, Jill Robinson et Christine Mihelic. Quant à Gregory Green, qui était poursuivi en même temps que Bush et ressemblait beaucoup au portrait robot de l'homme qui parlait avec Timothy King, il a été condamné à la prison à vie. Il faut dire qu'il avait admis avoir égrassé, souvent violemment, plus de 200 enfants en Californie dans la première moitié des années 70. Voilà. Quand on vous dit qu'un pédophile, ça a une carrière pédophile, qui sont pas forcément très nombreux, mais que souvent on parle en dizaines, voire centaines d'enfants, c'est ça. Parmi ses enfants, il y avait le neveu de Chris Bush qui faisait partie de la même bande d'amis que d'autres de leurs victimes issues du même secteur de la ville et qui a aussi été violé pendant des années par son oncle. L'enquête a aussi montré qu'il avait aménagé une cache à son domicile dans laquelle il a retenu au moins un adolescent de 14 ans. Dans sa camionnette, des culottes de deux fillettes ont été retrouvées ainsi qu'une photo Polaroid d'un des deux garçons qui ont porté plainte. Il a aussi impliqué Bush dans le meurtre de Mark Stebbins, mais son rôle à lui dans les meurtres d'Oakland n'a pas été démontré. D'autres policiers ont dit à Williams qu'ils pensaient que Bush était le tueur des quatre enfants et n'ont pas compris pourquoi il avait été relâché pour se suicider dans l'année, probablement le 20 novembre 1978, mais il y a des flous aussi puisque son corps a été retrouvé au domicile familial a priori 3 jours après sa mort. Étrangement, une équipe de la task force est rendue sur place, on ne sait pas pourquoi, c'est un suicide. L'autopsie a été réalisée par le médecin légiste du comté, un escroc qui la moitié du temps ne pratiquait pas réellement les autopsies. L'affaire a été classée en suicide en quelques jours et de toute manière, le corps a été incinéré 2 jours après sa découverte, ce qui évite tout problème d'enquête ou de cold case. C'est marrant, c'est toujours les mêmes procédures quand ça touche aux grandes familles très sensibles ou à des cas qui pourraient gêner. Hein. Enfin, les procédures ne tiennent plus. J'en profite pour ajouter, là tout à l'heure je vous disais que souvent une carrière de pédophile ça peut être des centaines de personnes. Statistiquement aussi c'est une évidence. C'est-à-dire que on est sur, en France, aux dernières nouvelles, une fille sur 6, un garçon sur 14. Donc si on réfléchit comme ça, si c'était un pédophile pour une victime, ça ferait un homme sur 6. Et c'est pas du tout ça. Les estimations, c'est éventuellement un homme sur 100 qui peut avoir des attirances pédophiles, encore moins qui passe à l'acte. Donc ça veut bien dire, s'il y a une fille sur 6 qui est victime, en dehors même des cas d'inceste qui ne représentent que 30%, l'intrafamilial c'est que 30% des cas, hein. Je vous renvoie à une bonne vidéo de Wendigo Furiosa, où nous aussi on avait fait des articles dessus. Donc vous voyez bien que les prédateurs pédophiles ont des dizaines et des dizaines de victimes. Qu'en fait, ils sont peu nombreux, et que si on faisait un petit peu des efforts pour les choper, on réduirait énormément, très vite, un problème qui est massif parce qu'ils ont des dizaines de victimes. Okay? Alors évidemment, aujourd'hui, il y a une certaine banalisation, une hypersexualisation des enfants, et je pense qu'effectivement, on a de plus en plus de cas, enfin, de plus en plus d'hommes qui sont attirés par les enfants qu'avant. mais parce qu'ils sont plus exposés à ce genre de matériel de manière beaucoup plus facile et gratuite via Internet et les réseaux sociaux. Néanmoins, bah justement, il faudrait d'autant plus mettre des moyens et aller choper tous ces types. Je reprends. Donc l'affaire a été classée en suicide, voilà, le corps a été incinéré 2 jours après sa découverte. En 2012, une association d'étudiants qui étudie les cold cases, la Cold Case Investigative Society de l'Université de Western Ontario au Canada, a étudié ce dossier. Parmi les éléments qui posent question, il y a l'absence de poudre sur ses mains, alors qu'il était censé s'être tiré une balle dans la tête avec un fusil, ou l'absence de traces de sang sur les murs à côté du corps. La présence d'une équipe d'enquêteurs du bureau du procureur est également étonnante, puisqu'il n'y a pas eu d'instruction, même pas de rapport d'intervention, et que la mort a été classée comme un suicide. Le rapport de l'association considère aussi que la scène de crime a été modifiée pour relier Bush au meurtre de manière évidente. Un mois après ce suicide, la task force dédiée au meurtre a été démantelée. La blague. Donc pour dire, lire entre les lignes, donc en gros, le fils Bush était complètement tellement mouillé et tellement con qu'il faisait n'importe quoi avec ses meurtres et avec son réseau de pédos. La famille a commencé à péter les câbles et ils n'arrivaient plus à le juguler. Donc à un moment donné, ils ont décidé de le buter et puis ils ont fait passer ça pour un suicide. Voilà, c'est ça l'histoire. Avec la complicité du procureur, etc. En tout cas, c'est mon opinion personnelle, ça n'engage que moi. Mais c'est cousu de fil blanc. Après son arrestation en janvier 77, son père a revendu le restaurant qu'il avait acheté pour l'occuper et a pris ses distances officiellement parce que son fils était homosexuel. Le père Bush s'était réinstallé dans le Michigan après avoir vécu en Allemagne et en Angleterre, dans le New Jersey, pour raisons professionnelles. Marnie Richkinan observe que la famille Bush a laissé très peu de traces et que le frère de Chris Bush, Charles, je cite, a déclaré au FBI en 2009 que son père avait, à un moment donné, mystérieusement déchiré tous les documents de la famille, y compris les passeports, les photos, les cartes de sécurité sociale et les certificats de naissance. Fin de citation. Des quatre frères Bush, un seul a réussi à se prendre en main, Charles, qui a aussi fait carrière chez General Motors et Chrysler. Donc là, quand on entend les informations comme ça, on se dit que s'ils étaient tous riches et qu'il n'y en a qu'un qui s'en est sorti, c'est peut-être qu'il y avait des problèmes à la maison et que le père, il violait ses enfants. Hein, ça vient, il n'y a jamais de fumée sans feu dans ces histoires. On commence pas du jour au lendemain. On continue. En 2009, une nouvelle task force a été mise en place pour réétudier le dossier. En 2010, Corey Williams a pu récupérer des pièces à conviction pour faire des recherches d'ADN. En 2011, Barry King a demandé des documents officiels concernant des types impliqués dans la pédocriminalité, notamment Francis Sheldon et Gerald Richards. Les analyses ont montré que des fibres identiques se trouvaient sur les vêtements de Jill Robinson et Timothy King. Les tests au polygraphe qu'avait réussi Bush à l'époque ont été analysés également. Et les nouveaux experts ont dit que s'ils avaient eux-mêmes fait passer ces tests, ils auraient échoué, car les résultats ont été, entre guillemets, mal interprétés. L'analyse ADN a permis d'identifier un ADN compatible avec celui de James Gunnell, retrouvé sur le sweat de Christine Mihalich, et est passé ensuite au détecteur de mensonges sur son application dans son meurtre. Il a échoué. North Fox Island et le réseau de prostitution de mineurs. Parmi les nombreuses images pédos que détenait Christopher Bush, certaines avaient été prises à North Fox Island, où il allait, semble-t-il, régulièrement. Situé sur le lac Michigan, c'était un lieu sacré pour les Indiens, puis l'île a été rachetée en 59 par Francis Sheldon, qui avait aussi créé plusieurs structures caritatives destinées en réalité à mettre la main sur des adolescents. En 77, une enquête menée par des journalistes a montré que la mission pour les enfants du frère Paul, The Brother Paul's Children's Mission, à North Fox, qui était officiellement une structure caritative d'aide aux enfants avec des difficultés légères et organise des stages de sport ou dans la nature, était en fait une vitrine pour des activités de production de films pédos. La Brothers Paul Children's Mission était financée par l'Église de la Nouvelle Révélation, basée à Kearney dans le New Jersey, donc la fameuse dont on a parlé tout à l'heure, qui était aussi une façade pour de la production et de la diffusion de films pédos. Elle était dirigée par Dyer Grossman, un fils de famille ultra privilégié new-yorkais qui était aussi le directeur du département jeunesse de l'Église de la Nouvelle Révélation et par Francis Sheldon. En 77, une enquête a mené à des poursuites contre Sheldon, soupçonné d'être impliqué dans une chaîne nationale de pornographie homosexuelle impliquant de jeunes garçons et dans des viols de deux garçons de 10 à 14 ans. 10 et 14 ans. Mais il a eu de la chance, hein. Son arrestation a été décalée de 4 mois. Ah bah c'est pas de chance ça. Ce qui lui a permis de disparaître de la circulation, suivi par Grossman, un an après Sheldon. D'ailleurs, Grossman a pris la fuite suite à des poursuites à New York pour pouvoir utiliser des organisations caritatives pour dissimuler un réseau de production et de diffusion de vidéos de viols d'enfants. Ah ouais, c'est pas de bol ça. Sheldon était l'arrière-petit-fils d'un ministre de la guerre, sénateur et gouverneur du Michigan, Alexandre Alger. et sa famille était l'une des plus riches du pays. Alexandre Alger était aussi un des membres fondateurs du club Yondo Tega, dont des présidents Truman et Theodore Roosevelt étaient membres, ainsi que le prince de Galles. Donc le prince de Galles, enfin à l'époque, mais aujourd'hui le prince Charles par exemple. Son grand-père Russell A. Alger était l'un des fondateurs, donc la famille royale d'Angleterre. Son grand-père Russell A. Alger était l'un des fondateurs de Packard Motor Company qui fabriquait des voitures de luxe. Son père était un très gros promoteur immobilier. Sheldon avait fait construire sur North Fox une piste d'atterrissage et un quai de chargement car il était aussi pilote et propriétaire d'un jet privé. Il a aussi aménagé des chalets pour ses invités. Parmi ceux-ci, il y avait un procureur du district de Charlevoix, Don Berlag, un ancien agent du FBI qui a visité North Fox Island avec ses deux fils adolescents au moins une fois. Il avait vidé ses résidences dans le secteur juste après l'arrestation en juillet 1976 d'un autre membre de la Brother Paul's Children's Mission, Gerald S. Richards, qu'il avait nommé directeur de l'association quelques mois auparavant pour avoir violé un garçon de 10 ans. On a retrouvé chez lui en Californie des photos pédopornographiques envoyées par Sheldon, et l'enquête a montré qu'ensemble, ils voyageaient et tournaient des films de viol d'enfants sur l'île de Sheldon et ailleurs. Richards était aussi hypnotiseur, conseiller pour enfants, naturopathe, et avait ouvert sa propre clinique. Jusqu'à ce moment, Sheldon, qui avait même servi dans l'Air Force pendant la guerre de Corée, était considéré comme un membre très influent et respecté de la communauté, impliqué dans diverses associations comme le Young Men's Christian Association, la fameuse YMCA, comme disent les US, qui invitait parfois les jeunes du coin à des parties de chasse sur l'île, des tours en bateau à Aspen ou des virées dans la propriété familiale des Caraïbes. Avec Richards, Sheldon projetait de faire de la Brothers Paul Children's Mission un centre d'hébergement pour enfants pour le rentabiliser en touchant l'argent de l'État, $180 par enfant et par mois, voire beaucoup plus pour les garçons difficiles. Un des membres de la Brothers Paul était le révérend Claudius Ira Vermilii, lui aussi passé par l'Air Force pendant la guerre de Corée. Il a été condamné à la prison pour avoir créé une structure appelée Boys Farm dans le Tennessee, un lieu de prostitution de garçons envoyé là par le système pénitentiaire ou les services sociaux. Alors juste, on s'arrête deux yeux. Donc en fait, c'est dit, hein, c'est une ferme à petits garçons pour se faire violer. Ça renvoie au numéro, au réseau Larry King, où c'était les Boys Town, hein, si vous vous rappelez, c'était l'Oklahoma ou l'Alabama, je me souviens plus, près de Franklin. Je reprends. Dans cet endroit subventionné par différents sponsors, comme Sheldon, les pédos les faisaient boire, puis commençaient les orgies qui étaient filmées avec des caméras cachées. Marner Hitchkinan écrit que, je cite, « La police a aussi saisi, chez Vermilii, une liste de contributeurs contenant environ 300 noms, dont une dizaine seulement étaient du Michigan. » Donc c'était pas juste un réseau local. Seulement 5 ont semble-t-il été poursuivis, les plus proches de Sheldon. En plus des poursuites avec Richard, pour avoir violé deux garçons de 10 et 14 ans dans un hôtel à Port Huron en novembre et décembre 1976, deux nouvelles procédures ont été lancées contre Sheldon pour les viols de deux garçons âgés de 9 et 13 ans sur l'île de North Fox et à Port Huron où il faisait des virées avec Grossman. Francis Sheldon finançait aussi une newsletter de Boys Lover, comme ils disent, Hermès. En mai 1977, plusieurs types inscrits à Hermès ont été arrêtés aux États-Unis pour avoir violé, torturé et filmé des adolescents et des enfants, puis distribuer les films dans leur réseau. Après sa fuite, Sheldon a pris soin de démissionner du conseil de direction du Cranbrook Science Institute à Bloomfield Hill et du Boys Republic Inc. à Farmington Hill, un centre pour les garçons perturbés. Il avait des trusts dans les paradis fiscaux, des actifs qui transitaient des États-Unis vers l'étranger, et il voyageait beaucoup à bord de son jet privé, et ses entreprises étaient soupçonnées de couvrir son business de films pédos de viol d'enfants. Il avait aussi créé un trust pour ses actifs aux îles Vierges en septembre 1976, 2 mois après l'arrestation de Gerald Richards et 2 mois avant sa fuite, géré par un certain Adam Starchild, donc l'enfant étoile. Spécialiste des placements offshore, jusqu'en avril 1978, quand Sheldon, en fuite à Amsterdam, a nommé à sa place le militant pédocriminel hollandais Edward Brongersma. L'enquête de la police autour de son chargé d'affaires, Malcolm McConaughey, alias donc Alan Starchild, qui est au cœur des transactions de Sheldon et des structures créées par Sheldon et Grossman, a montré que Starchild était président de l'église de la Nouvelle Révélation et avait aussi un lien avec le réseau pédocriminel opérant depuis Boys Farm, deux organisations enregistrées comme caritatives. Ces structures, créées par la bande de pédos, bénéficiaient de l'exemption de taxes et avaient aussi pour objectif d'essaimer en diffusant auprès des pédos la méthode pour ouvrir des centres pour les jeunes. Durant sa fuite, Sheldon n'a pas chômé. Il a été repéré en France, où il s'est marié en 79 avec une prostituée française et a obtenu la nationalité française, ce qui empêchait son extradition vers les États-Unis. Ben oui, hein, quand on est un pédo dans la sphère occidentale, où trouve-t-on refuge? En France. On se rappelle Polanski, on se rappelle de... Comment là? La femme d'Epstein, là, qui s'était barrée, qu'on savait qu'elle était dans le Périgord, etc. De 79 à 84, il était aux Pays-Bas, paradis de pédocriminels, où il a été directeur exécutif du magazine PAN, a magazine about boy love, donc PAN, P-A-N, pour Pédo Alert News, un magazine sur l'amour, soi-disant, des garçons, qu'il a créé sous le pseudo de Frank Torrey. Il a été l'éditeur de la revue, ainsi que de la maison d'édition de livres pédo-érotiques The Colt's Foot Press. Pan était édité par le réseau Spartacus, une maison d'édition pédo anglaise basée à Amsterdam qui distribuait des magazines, des vidéos et des bonnes adresses aux pédos du monde entier. Je vous renvoie à un autre article réseau qu'on a fait qui s'appelle Réseau Amsterdam, où on parle un petit peu de ce qu'on va parler pendant 2 secondes là. Notamment le fameux John Stamford, prêtre anglican qui a fui l'Angleterre pour des auspices plus cléments envers les pédos, arrêté puis jugé en 1994 en Belgique pour propagande et diffusion de vidéos de viols d'enfants, qui a créé ce guide des lieux pédos dans 150 pays. Il était aussi sous le coup d'une enquête de la police anglaise pour la publication de l'International Gay Guide, créé en 72 à Brighton et qui était surtout destiné aux pédos, malgré ses atours homosexuels, et était soupçonné d'avoir aussi produit des snuff movies, c'est-à-dire des films dans lesquels les victimes sont tuées. Stamford avait aussi créé un tour opérateur pour les pédos pour les emmener à destination. Il est mort d'une crise cardiaque en décembre 95 à 56 ans durant un séjour à l'hôpital en Belgique pendant son procès. Selon Simon Dauvet, qui a écrit un livre sur l'affaire des meurtres d'Auckland County, je cite: un mois plus tôt, les autorités belges ont été informées qu'elles cherchaient un lien possible entre le réseau de Stamford et les activités de trafic d'enfants d'un autre de ces tueurs en série, Marc Dutroux. Fin de citation. C'est pas de bol que Stamford y meure à ce moment-là, juste avant son procès d'une crise cardiaque à l'hôpital. C'est ballot. Et en effet, les enquêteurs s'interrogeaient sur un lien éventuel entre Stamford et le réseau Dutroux. Sheldon, devenu hollandais en 83, est mort moins d'un an après Stamford. Dans les années 80, il a été fiché à Interpol, risquant donc d'être arrêté dans 108 pays et serait mort de cause naturelle dans son appartement d'Amsterdam en 96 à 68 ans. Il a été viré du journal PAN en 84 après 20 numéros, comme le précise un édito de John Stamford dans le numéro 21, paru en décembre 85, après quasiment un an de silence en raison de diverses affaires judiciaires. Le numéro 21, le dernier, précise que suite à ces affaires, plusieurs contributeurs de la revue ont été écartés. Je cite: parmi ces personnes, il y avait Frank Sheldon, ancien éditeur de PAN et Colt's Foot, écrit l'auteur, qui s'empresse de souligner son admiration de tout le travail fourni par Sheldon, qui était, je cite, un excellent éditeur qui se consacrait à travailler pour la cause pédophile. Puis l'auteur regrette que Frank Sheldon se soit rapproché de ses partenaires actuels après qu'ils ont été renvoyés de Spartacus et Colt's Foot. Il y avait aussi probablement Jacques Duguay, militant de la cause pédo, plusieurs fois emprisonné entre 79 et les années 2000, ami de Mads Neff, qui a témoigné en sa faveur à son premier procès et photographe pour PAN. Rappelons que Duguay n'était pas seulement un gentil pédo qui aime les enfants, comme il aimait à se présenter, et avec lui le lobby pédocriminel. S'il a été inquiété en 79, c'est parce que lors d'une perquisition chez un pédocriminel aux États-Unis, les policiers ont trouvé des lettres de Duguay qu'il lui avait envoyées, dans lesquelles il parle de torturer, d'assassiner des enfants, ou encore, je cite, de pervertir les enfants afin qu'une nouvelle génération de pervers nous succède. Voilà à quoi on a affaire. On va pas prendre les gens pour des cons. Peut-être ont-ils aussi viré Peter Glencross, neveu de Nicolas Glencross, le curé pédocriminel qui a hébergé Hubert Védrine dans son abbaye, qui lui servait de studio de production de pédopornographie. Peter Glencross était business manager de l'International Gay Guide, édité par Spartacus. Ils n'ont par contre pas eu à virer Roger Lawrence, pilier de Spartacus jusqu'en 86, quand il s'est brouillé avec Stamford. En 87, cet ex-membre du Pédophile Information Exchange, donc un lobby pédo-anglais conservateur très proche de la droite, il a été donc ce membre, Roger Lawrence, a été contrôlé à Douvres et la police a retrouvé un enfant de 3 ans, kidnappé 6 mois auparavant chez ses parents à Paris, sous la banquette arrière de sa voiture. Mais oui. Il circulait en compagnie de Beat Meyer, un pédocriminel suisse, alors recherché en Suisse, aux Pays-Bas, en France et en Angleterre, qui au début des années 90 sera soupçonné par Scotland Yard de produire des snuff movies. Accessoirement, Roger Lawrence sera l'identité réelle de Roger E. Hunt, donc de son pseudo, donc l'éditeur qui a repris PAN après que Sheldon a été forcé de partir. Dans les années 80, Sheldon a aussi créé Global Academic Publisher, une maison d'édition dédiée à la publication des écrits de militants de pédos comme le professeur Theo Sanford ou l'ex-sénateur Edward Brongersma qui les a traduits et Acolyte Readers qui publiait les nouvelles des pédos. Sheldon aussi a été accusé par Lawson d'avoir commandité l'enlèvement de Timothy King pour le tuer. Lawson affirme avoir rencontré Sheldon, qui se faisait appeler Kim, à Amsterdam en 79. Marner Hitchkinan précise que Lawson, je cite, a également déclaré que Sheldon finançait la production de photos et de films pédopornographiques dans la région de Détroit et qu'il les envoyait à Amsterdam en vue d'une distribution internationale par une organisation appelée Eyes of the Chicken Hawk. Donc l'œil de l'aigle à poulet. Alors les poulets, c'est la manière dont les pédophiles appellent les bébés qu'ils violent. Et donc eux se prennent pour des prédateurs, pour des aigles. Donc il y a même eu un documentaire fait par la NAMBLA, dont on parlera après, qui s'appelle Chicken Hawk. Vous pouvez retrouver sur le mur vidéo. Et en effet, un certain Kim Hong produisait et distribuait des films pédos à Amsterdam à cette époque et était connu pour ça. Créé en 69, le réseau Spartacus s'étendait au milieu des années 70 dans le monde entier. Des membres de l'organisation US Pro Pédo, la NAMBLA, étaient membres du club. En Grande-Bretagne, le tristement célèbre Elm Guesthouse, qui était en fait un bordel pour pédos actifs entre 79 et 82, où des garçons des orphelinats du coin étaient prostitués auprès de politiciens notamment, avait diffusé une publicité dans le magazine Spartacus, Capital Gay, offrant une réduction sur des prestations pour les membres du réseau Spartacus, des prestations étant certainement des viols d'enfants. Donc, je vous renvoie à un autre article réseau qui a été fait spécialement sur l'Elm Guesthouse. Parmi les visiteurs de cet endroit, il y avait Peter Heyman ou Anthony Blunt, chef du MI6, des renseignements extérieurs anglais, George Tremblett, membre du Grand Conseil de Londres, le député Cyril Smith, tout un article réseau sur lui et son fief de Rockdale, grand ami de Jimmy Savile, tout un article également réseau sur lui à l'époque où il était à la BBC, présenteur à la BBC, Jimmy Savile, le ministre de l'Intérieur Léon Britton, le député membre du Monday Club Peter Bottomley, le député Peter Brook ou encore Peter Glenn Cross. L'ancien député John Rove, organisateur de voyages pour pédos entre l'Angleterre et les Pays-Bas, et le pédocriminel Terry Dwyer ont convaincu le propriétaire de transformer la guesthouse en bordel pour pédos. Là-bas, les politiciens anglais croisaient partout avec des pédos pourvoyeurs de chair fraîche, comme Warwick Spinks, Barry Alden ou les dirigeants de l'orphelinat Grafton Close, John Stingemore et Tony McSweeney, et deux ou trois stars comme Jimmy Savile et plusieurs garçons ont disparu à proximité à cette époque. Donc je vous renvoie également au réseau Amsterdam pour voir Warwick Spinks. L'affaire a été largement étouffée comme il se doit. Parmi les pédos du réseau Elm Guesthouse, il y avait aussi un individu actif dans le trafic et le tournage de vidéos nommé Russell Howard Tricker, qui organisait depuis les années 70 un système pour acheminer des garçons depuis l'Angleterre vers Amsterdam. Donc là, c'était vraiment juste une petite parenthèse pour vous renvoyer à voilà, des gens qui étaient autour de ce réseau pédo des années 70, 80, 90, 2000, autour de la revue Spartacus, de la revue Pan. D'ailleurs, j'en profite. On a les archives de PAN, on a les archives de l'ICPE, donc des newsletters internes à ce réseau de l'époque. C'est pas mal de travail, mais si quelqu'un souhaite se pencher dessus, c'est beaucoup en anglais évidemment, un peu en allemand, un peu en hollandais. Ça pourrait être intéressant, même si c'est du cold case, voilà. On fait un appel, si ça vous intéresse, on cherche quelqu'un pour se pencher là-dessus. On revient. La piste du réseau de General Motors, on revient à Détroit aux États-Unis. Marner Hitchkinan a aussi récolté des témoignages au sujet d'un réseau pédocriminel dans la direction même de General Motors. Je cite. Des femmes ont fait surface, me contactant la famille King ou l'inspecteur Corey Williams. La plupart ont eu recours à des intermédiaires, avocats, thérapeutes ou amis proches, parce que, tout en se sentant obligées de raconter leur histoire, elles devaient être sûres que leur anonymat serait protégé. Même après toutes ces années, elles craignaient toujours pour leur sécurité. Les femmes affirment avoir été abusées sexuellement dans leur enfance dans le cadre d'un réseau organisé de pédophiles opérant au sein de la direction de General Motors au milieu des années 70 et jusque dans les années 80. Leurs récits sont horribles. Une femme a raconté les abus sexuels qu'elle a subis de la part de son père et de ses associés professionnels lors de fêtes pédophiles organisées dans des maisons dans les banlieues luxueuses de Détroit comme Palmer Park ou Bloomsfield Hills. Des abus qui ont commencé quand elle avait 3 ans et ont cessé à ses 11 ans. Son père, fermier du Midwest, venu travailler à l'usine General Motors, a commencé à avoir des promotions juste après avoir vendu sa fille au pervers de la direction de l'entreprise. Keenan évoque les témoignages de 3 autres femmes, l'une dont la mère était assistante personnelle, pour des cadres de GM, a déclaré qu'elle avait été confiée à plusieurs, entre guillemets, babysitters pour préparer les enfants à faire des vidéos pédos en secret. Keenan écrit que le tournage avait lieu dans un immense hangar de stockage et les films étaient transportés dans des boîtiers VHS, donc de cassettes VHS Scooby-Doo, selon ce témoin. L'autre femme déclare avoir été enlevée en 70 par un réseau de pédos du secteur d'Auburn Hills, site d'une ancienne énorme usine de fabrication de camions et d'autocars de GM, et qu'elle a été détenue avec d'autres enfants, garçons et filles, pendant plusieurs jours dans une maison. Je cite « Nous étions traités comme des jouets plutôt que des êtres humains », a-t-elle déclaré. Le système était très organisé. Les enfants étaient drogués et violés en prenant la précaution de ne pas laisser de traces jusqu'à les laver après et de grosses sommes d'argent circulaient. La troisième femme a aussi été prostituée par son père auprès d'un réseau pédocriminel pour des orgies et des films et cite parmi les noms des individus puissants de l'affaire et cite donc parmi les noms des individus puissants de l'affaire des meurtres d'Oakland les mêmes. Il y a aussi différents témoins qui, selon Keenan, disent que des fils de dirigeants de GM ou de bonne famille enlevaient et tentaient d'enlever des enfants à Birmingham, Bloomfield Hill ou Ferndale. Quand les familles ont été portées plainte, l'enquête, quand elle a eu lieu, a été rapidement bloquée. Marnie Rich Keenan mentionne encore des témoignages qui tournent les soupçons vers les policiers. Il y a celui d'un homme qui avait 2 ou 3 ans de plus que Christine Mihelich et dit l'avoir vu monter dans la voiture d'un policier qu'il connaissait bien, Jim Cox, le soir de 77 devant le supermarché où elle s'est rendue avant de disparaître. Il a tenté de témoigner plusieurs fois mais n'a jamais été pris au sérieux. Un policier lui-même dit qu'il mentait et il a été harcelé par la suite. Deux de ses amis, à qui il avait parlé de ça, sont morts soudainement après ces révélations et après qu'ils aient contacté la police pour transmettre ce témoignage. Mais personne d'autre n'a évoqué la présence d'un policier. Le policier Christopher Flynn, qui se serait aussi suicidé en novembre 78, 6 jours avant qu'on retrouve le corps de Christopher Bush. C'était un ami proche de Corey Williams, leur famille se connaissait, leurs pères ont travaillé dans la même unité de police. Flynn a été retrouvé mort de 2 balles dans le thorax dans sa voiture. Il avait une arme dans la main et une autre appartenant à un autre policier, James E. Crusell, était entre le siège passager et la portière. Les balles retrouvées étaient des calibres différents. Il avait été signalé à plusieurs reprises à la police comme étant lié au meurtre, mais ses documents ont pour la plupart disparu. Confié à l'âge de 7 ans à un orphelinat catholique où il a été violé par des prêtres, il s'est engagé à 16 ans dans les Marines. Son ex-femme l'a décrit comme fou, paranoïaque, schizophrène, et cela s'aggravait avec le temps. C'est pour cela qu'elle est partie avec ses filles à des milliers de kilomètres une nuit de février 77. D'autres témoins dans sa vie privée ont confirmé. Là, je vous laisse admirer dans l'article, donc, ou dans l'organigramme qui a été décrit par le pédophile, par différents pédophiles et qui a été remis ensemble par Corey Williams. Donc, vous voyez qu'il est très fourni avec beaucoup de noms. Enfin, voilà, c'est un réseau pédocriminel, quoi. D'élite. On ne peut que s'interroger. Pourquoi a-t-il fallu des années pour que Sheldon, qui voyageait beaucoup et avait des propriétés à droite à gauche, à Antigua, dans le Michigan, New Jersey, soit enfin dans le viseur des autorités? Pourquoi la justice US l'a-t-elle laissé en paix alors qu'il est un personnage d'intérêt dans les meurtres d'Oakland County? La piste des films pédos de Norfolk Island que Sheldon diffusait apparemment jusqu'en Europe n'a pas été suivie pour les enquêteurs. Pourtant, tout indique que des victimes sont passées par cette île. Il faut rappeler comment fonctionnent les réseaux dans lesquels il y a les petits ou grands barons locaux, il y a ceux qui ont l'argent et le pouvoir, et ceux qui les servent. Dans l'affaire des meurtres d'Oakland County, ceux qui sont restés en prison sont ceux qui ont parlé. La plupart des hommes de main, seuls à avoir été inquiétés et interrogés, ont échappé à la justice. Les témoins gênants ont été éliminés, et les deux privilégiés, ceux qui avaient le pognon pour mettre de l'huile dans les rouages, sont partis à l'étranger pour continuer leurs activités. Il n'est pas impossible, et il est même très probable, que plusieurs réseaux de pédos se soient croisés dans l'affaire des meurtres d'Oakland County. De plus, les 4 meurtres d'enfants ne sont pas forcément commis par le ou les mêmes auteurs. Cette affaire qui brosse le tableau des réseaux pédos des années 80 à 2000 montre l'interconnexion des réseaux d'exploitation sexuelle de mineurs qui maillent le territoire. Les profils de dizaines de pédocriminels jamais isolés ont été étudiés dans cette affaire, ce qui fait apparaître une véritable toile d'araignée de pédocriminels dans le nord de Détroit, mais aussi à Amsterdam, devenu dans les années 80 le paradis européen des pédocriminels. Je vous rappelle qu'à Amsterdam, donc, il y avait ce lobby-là, avec la revue PAN, l'ICPE, je me trompe tout le temps. Et il y avait carrément, à un moment donné, une association qui avait pignon sur rue et qui militait pour la légalisation de la pédocriminalité, qui s'appelle Martinche. Et le seul pays d'Europe où cette chose a pu avoir lieu, une vraie association, la 1901, qui a pignon sur rue, qui a le droit de parler dans les médias et de prendre sa part dans les débats télévisés ou dans faire des manifestations. C'était donc en Hollande avec Martins. Il y avait aussi eu le PIE en Angleterre, mais bon, ils sont passés une fois à la télé et ça avait très vite périclité. Je continue. Ces réseaux restés largement impunis ont ensuite prospéré, se sont adaptés aux nouvelles technologies, à l'ouverture des frontières et à la mondialisation. Je vous mets un documentaire d'une chaîne de télé locale qui a été réalisée sur le sujet, ci-dessous, de 3 quarts d'heure, et également, très intéressante, une interview donc de la journaliste qui a écrit le livre, Marnie Rich Keenan, qui est visible ci-dessous, où elle expose de nombreux éléments. Voilà. Et donc, enfin, je vous laisse imaginer. Imaginez que la réalité d'aujourd'hui, c'est la continuation de ces gens-là, d'accord? Maintenant, voilà, on est dans un monde où finalement on peut faire des lives, tout le contenu pédo, il est gratuit, il y a des millions et des millions de gigas qui sont sur des serveurs. On a Signal, Telegram, WhatsApp, enfin tout, même les réseaux sociaux complètement non cryptés, hein, qui sont très utilisés. Et donc, on a les mêmes personnes avec les mêmes idées qui sont dans une croisade. Qui trouvent, qui comprennent pas, enfin qui font semblant, ou qui comprennent, ou qui font semblant que les enfants ne souffrent pas, mais qui disent qu'en fait on a le droit, et en fait c'est dans la suite de ce qui s'est passé pour les homosexuels, hein, pour la légalisation par exemple du mariage homo et tout, eux ils sont dans le même esprit, c'est-à-dire on combat, on est militant d'une cause juste, les autres ne savent pas, ils se rendent pas compte, mais en fait on a le droit d'eux, les enfants, pourquoi on veut pas les violer, les vendre, je vois pas où est le problème, on le fait bien pour les adultes. C'est tout. C'est juste que la société se rend pas compte que, bah, en gros, l'âge adulte, ça devrait être 7 ans. C'est le genre de discours qu'on peut entendre. Et aujourd'hui, ils ont des moyens de communication énormes. Alors bon, la société se rebiffe un peu, on en parle un peu plus, mais eux, ils ont des moyens d'organisation aussi extrêmement élevés, quoi, pour transiter des capitaux, voyez, par exemple avec le Bitcoin. Pour aller sur des endroits du darknet qui ne sont pas vus, etc., etc. Avec des moyens pour lutter qui sont assez faméliques, hein, en face. Je ne peux que vous renvoyer à un article récent qui a été fait sur l'OFMIN. Donc on est très content qu'il y ait l'Office des mineurs qui existe en France depuis peu, avec des gens qui ont l'air compétents et motivés à leur tête, qui disait que la plateforme Pharos qu'on était allé voir nous il y a presque 10 ans maintenant, qui nous disait qu'ils n'avaient pas le temps, qu'ils faisaient que les cartes bleues et le terrorisme et qu'ils n'en avaient rien à secouer. Aujourd'hui ils ont bien plus de moyens, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la fibre optique. Ils sont plus nombreux, mais ils n'ont pas la fibre optique. Je sais pas si vous vous rendez compte, des gens en Île-de-France qui n'ont pas la fibre optique. Bon déjà, t'es mort de rire. Non, non, les mecs, c'est ceux qui sont censés lutter contre la cybercriminalité, ils sont à la DSL. Moi ce pays, ça me... Bref, allez courage, soyons vigilants, toute l'équipe Wanted Pédo vous salue, courage, force et honneur, on lâche rien, et puis ça mettra du temps, il y a de l'inertie, mais on les aura.